Comment allez-vous? Vous êtes nombreux à demander depuis quand les petits bateaux existent-ils? Qui a trouvé le titre? Pourquoi attend-on parfois si longtemps les réponses? Alors, les petits bateaux existent depuis septembre 1996. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Il y avait alors une formidable émission avec des enfants qui s'appelait Fréquence Môme, créée par William Lémergie. Fréquence Môme s'arrêtait. Le directeur de France Inter de l'époque, Jacques Santamaria, me dit « J'ai entendu cet été une émission formidable sur une radio québécoise avec des enfants qui posent des questions et des savants qui répondent. Noël, vous allez m'animer ça. » Moi, j'étais plutôt dépitée car j'aimais bien l'émission que j'animais avant. Et puis, on s'y est mis. Avec au début les questions de nos enfants, les miens et ceux de mes amis de France Inter pour amorcer la pompe, très vite, nous avons reçu plus de questions que nous ne pouvions en traiter, d'où l'attente. Voilà, merci à William Lémergie d'avoir ouvert la voie, merci à Radio-Québec d'avoir inspiré France Inter, merci aux enfants pour vos questions, aux savants pour leurs réponses et à l'équipe pour son travail. Quant au titre, il n'est pas de moi non plus, mais toujours de la direction. J'ai un peu honte, j'ai l'impression d'être celle qui en fait le moins dans cette émission. Parfois, les journalistes demandent quelle est la question la plus belle à laquelle vous ayez répondu au petit bateau. Il y en a beaucoup, vous imaginez bien. J'ai bien aimé. Faut-il être intolérant avec les intolérants posés par une petite Ève, et puis celle-ci aussi?
Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 14 ans et je voulais savoir comment est-ce qu'on sait qu'on est quelqu'un de courageux? Merci.
Bonsoir Marie pour cette belle question, pas facile d'y répondre. Cynthia Fleury, vous êtes philosophe, psychanalyste et entre autres professeure au Conservatoire National des Arts et Métiers. Comment est-ce qu'on sait si on est quelqu'un de courageux, demande Marie.
Bon, ben c'est une très belle question déjà, donc et puis c'est une question aussi qui est importante dans nos vies parce qu'elle nous guide. Alors je répondrai d'abord par le creux, par l'inverse, par l'autre côté, c'est-à-dire que on ne sait pas forcément quand est-ce qu'on est courageux, mais on sait souvent quand est-ce qu'on est lâche. Donc pourquoi on sait quand on est lâche? Pourquoi? Parce que on va renoncer à une valeur dans laquelle on croit, on va avoir peur. Considérer qu'il est possible de traverser cette peur et puis finalement, par confort, par indifférence, par peur, etc., on va pas y aller. Et donc, on ne va pas prendre le risque alors qu'on sait qu'on aurait éventuellement les moyens de prendre ce risque. Et donc, on renonce, on capitule. Et ce sentiment de la capitulation, ce sentiment de renoncement, il est très présent. Il peut même parfois nous donner honte. Donc par exemple, si on a honte, souvent, ça peut être une possibilité pour dire « Tiens, je me suis pas très 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 bien comportée, il y a quelque chose qui est bizarre ». Parce que quand on sait qu'on a tout fait, même si on échoue, c'est ça qui est intéressant dans le courage, c'est que le courage n'est pas synonyme de réussite. Le courage, c'est synonyme de faire. J'y suis allée, j'ai raté, mais c'est vraiment pas important. J'y suis allée et je sais que ce que je devais faire à ce moment-là, je l'ai fait. Et à ce moment-là, oui, j'ai été courageux. Bon, bah cette fois-ci, j'ai pas réussi. Il y a eu un échec. Mais l'échec ne dit jamais la vérité du courage. En revanche, je peux avoir renoncé par peur d'échouer, par exemple. Et quand j'ai renoncé par peur d'échouer, j'ai manqué de courage. Alors que je n'ai pas échoué, puisque j'ai sauvé les apparences. Donc, vous voyez, le courage, il se loge dans des endroits un peu particuliers. Ce qui est important, c'est que, voilà, on sait qu'on est courageux quand on a ressenti la peur. Donc, il faut ressentir la peur. Et quand on traverse cette peur et qu'on fait quelque chose. Voilà, ça c'est être courageux. Et puis souvent, les autres, quand même, qui sont autour, viennent vous dire « Ah, t'as été courageux ». Et vous, tout de suite, peut-être, vous ne le saviez pas et vous dites « Ah bon ? Tu es sûr ? Mais pourquoi ?» Et là, il y a un dialogue qui commence en disant « Mais si, tu as été courageux. Et d'ailleurs, ce que tu as fait, ben moi, ça m'inspire. » Parce que souvent, quand on produit une action courageuse, on devient une sorte de, un peu de muse. On inspire un peu les autres.
Alors ça, c'est le regard, le bon côté du regard de l'autre, Cynthia Fleury. En revanche, est-ce que parfois, justement, parce qu'on veut être courageux face aux autres, on fait pas parfois des choses un peu trop risquées, sottes?
Tout à fait. Alors, mais ça, pour le coup, on n'est plus dans le courage, on est dans autre chose. On est dans ce qu'on appelle en philosophie la rivalité mimétique. La rivalité mimétique, ça veut dire que on fait de la compétition avec l'autre. Mimétique, hein, ça vient du mot mimesis. Imitation, et c'est-à-dire qu'en gros, on est là et on veut exister, et ça arrive très très souvent chez les enfants, mais pas que chez les enfants, hein, chez les adultes aussi, de fait, c'est-à-dire que au lieu de se poser la question de « tiens, est-ce que cette chose-là doit être faite ?» C'est ça la question du courage. Ça doit être fait, j'essaye de le faire, même si je rate. Mais qu'est-ce que vont penser les autres de moi si je ne fais pas ça? C'est pas la même question. Ça, c'est de la rivalité mimétique et ça, généralement, ça vous conduit dans le mur.
Belle question hein, sur le courage. Nous avions une belle question aussi d'un petit Hector qui nous avait dit « La plus belle des qualités, c'est la gentillesse. » Et j'y pense tout le temps. Cynthia Fleury, qui a donc répondu à cette question sur le courage, a écrit beaucoup d'ouvrages que vous trouverez sur le site des Petits Bateaux. Le dernier, paru au mois de juin aux éditions de l'Aube, s'appelle « Liberté, égalité, fraternité », écrit avec Mona Ouzouf et Michel Perrault. Trois femmes, Cynthia Fleury, Mona Ouzouf, Michel Perrault. Trois femmes merveilleuse. Ce soir, dans les petits bateaux, vous avez demandé comment font les grutiers quand il y a beaucoup de vent? Pourquoi à la naissance les yeux des bébés sont bleus et ensuite ils changent de couleur? Vous avez également demandé à Yves Coppens si les hommes préhistoriques enterraient leurs morts. Ces questions, vous les avez posées au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 9 ans et je voudrais savoir pourquoi Napoléon mettait toujours sa main dans sa veste. Merci, au revoir.
Bonsoir Lucie. Vous avez écrit, vous avez recueilli des témoignages de David Chantrane avec Jean-François Coulon des Arts sur Napoléon à Sainte-Hélène. Votre livre s'appelle « Napoléon, les derniers témoins racontent ». Aux éditions du Rocher, vous êtes historien, David Chantrane, écrivain, journaliste, et vous êtes également conservateur du musée Napoléon de Brienne-le-Château. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose un peu tous. D'abord, est-ce que c'était vrai qu'il mettait toujours sa main dans sa veste?
Oui, c'était vrai. Napoléon mettait toujours sa main dans sa veste. Et il y a trois raisons à cela. La première, c'est d'ordre pratique à l'époque. Il faut se rappeler que les pantalons ne sont pas les pantalons que nous connaissons aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle une culotte. Alors, c'est pas la culotte qu'on l'emporte. Hein. C'est ce qu'on appelle la grande culotte. Celle qui permet de pouvoir tenir à cheval.
Comme une culotte de cheval.
C'est exactement ça. Et ça montre bien la différence d'un personnage comme Napoléon avec le commun des mortels, ou du moins le reste de la population. Parce que s'il porte cette culotte particulière, c'est que comme il peut posséder un cheval, c'est qu'il fait partie d'une société un peu exceptionnelle. Donc, à l'époque, le cheval, c'est un peu l'équivalent d'un camion, hein, c'est-à-dire qu'il faut l'entretenir. Ça demande beaucoup d'entretien. Donc, à l'époque, cette tenue, cette culotte, ne porte pas de poche. Donc, pour un petit peu se reposer et reposer ses mains, qui sont ballants, eh bien, on met sa main dans le gilet. Ça, c'est la première raison. Mais il y en a deux autres. Deux autres beaucoup plus essentielles, peut-être. La deuxième raison, c'est que Napoléon, en mettant la main dans le gilet, se tient beaucoup plus droit. Donc, ça lui donne un caractère un peu martial, un peu...
Prestance.
Hein, voilà, beaucoup plus de présence aussi par rapport aux gens qui l'environnent. Donc, déjà, on est impressionné. C'est comme les gens qui mettent les mains derrière le dos. C'est un peu la même chose. Hein. Donc, ça, c'est la deuxième raison. Et puis, il y en a une troisième qui est d'ordre médical, cette fois. Son estomac le fait souffrir.
Ah.
Et cet estomac un peu difficile, avec la main dans le gilet, ça lui permet d'avoir un peu de chaleur et d'atténuer les souffrances qui vont l'emporter, on le sait, le 5 mai 1821.
Il se masse un petit peu, quoi.
C'est exactement ça. Il se masse. Et ça va aller avec crescendo avec le temps parce que autant il y a une petite, un petit moment un peu de douceur qui va le gagner un petit peu au moment de Sainte-Hélène. On sait que dans les années 1818-1819, sa santé s'améliore. Mais ça n'est que partie remise parce que à partir de 1820, la fin de l'année 1820, eh bien, la maladie l'emporte et donc il va être alité. Et là, ça n'est plus la main dans le gilet qu'on retrouve, mais c'est un Napoléon vraiment souffrant.
Est-ce que Napoléon était un anxieux, David Chantrane?
Oui, c'était un anxieux. Il faut se rappeler aussi dans quelles conditions il a vécu. Il a été séparé de sa famille à 9 ans et demi dans une période où lorsqu'il faut traverser la Méditerranée, ça n'est pas comme aujourd'hui. Il faut prendre un navire qui n'est pas toujours sûr d'arriver à bon port. Surtout, il va voir ses parents seulement une seule fois pendant toute son adolescence. Et lorsqu'il racontera ensuite comment il se considère vis-à-vis de cette famille et vis-à-vis de ce clan, bien, il dira « Je me sens plus champenois que corse ». Ça veut dire « Je me sens plus, finalement, habitant de la Champagne à l'école de Brienne que corse ». Et lorsqu'il le dit, ça veut vraiment dire que ces années de formation, elles ont été très importantes, mais ça veut dire aussi qu'il a beaucoup souffert à la fois des moqueries de ses camarades qu'il considérait comme une sorte d'étranger à l'époque, parce qu'il parlait avec un accent un peu corse prononcé, donc il se moquait de lui. Et puis surtout, parce que son teint olivâtre le faisait considérer comme un étranger. Donc on oublie qu'en fait, il a subi lui-même les moqueries comme étant lui-même un étranger. Donc il faut bien se rendre compte dans quelles conditions il a vécu, notamment pendant sa jeunesse.
L'école de Brienne, c'est votre musée.
Et l'école de Brienne, c'est mon musée. Ça montre bien que il faut un moment important dans la vie d'un personnage. Et Napoléon, qui a beaucoup souffert parce que les conditions étaient difficiles, le climat était beaucoup plus difficile que la Corse, évidemment, à l'époque, eh bien, ça a forgé son caractère. Et s'il n'avait pas forgé son caractère de la sorte, peut-être ne serait-il pas devenu ni Bonaparte pendant les premières campagnes d'Italie et d'Égypte, ni même le Napoléon qu'on a connu par la suite.
Voilà, David Chantran a écrit avec Jean-François Coulon des Arts, Napoléon, les derniers témoins racontent, et c'est aux éditions du Rocher. Quant au musée de Brienne-le-Château, le musée Napoléon, vous trouverez le site de ce musée sur le site des Petits Bateaux. France Gall, viens, je t'emmène, paroles et musique Michel Berger.
Les petits bateaux sur France Inter.
Yves Coppens, c'est paléontologue, professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Académie des sciences. Il est en train d'écrire ses mémoires, d'ailleurs à mon avis, il a déjà terminé puisque le livre sortira en avril.
Je m'appelle Noé, j'ai 7 ans et je voudrais savoir si les hommes préhistoriques enterraient leurs morts. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 6 ans. Et je voudrais savoir depuis quand on enterre les morts et pourquoi. Merci de me répondre. Au revoir.
Yves Coppens.
Alors, pour Noé et Émilie, il faut savoir que les gens sont religieux depuis qu'ils sont apparus, tout simplement parce qu'il y a 3 millions d'années, avec leur grosse tête, ils se sont mis à réfléchir. Leur grosse tête n'était faite que pour trouver des astuces pour échapper à la dent des carnivores. Mais ayant une grosse tête, la grosse tête leur a permis d'avoir une conscience, de mieux comprendre ce qu'était la vie, de mieux comprendre l'autre, ça a changé complètement leur manière de penser au sens propre. Et ceci a entraîné aussi leur prise de conscience de la mort. Et la prise de conscience de la mort, c'est quelque chose de très important, de très grave. C'est à la fois la mort des autres et sa propre mort. Et ceci probablement est à la naissance de la religion. C'est-à-dire que la religion, elle est apparue dès le premier homme.
Alors, donc la religion n'est pas quelque chose qui est lié à la vie, mais à la mort.
C'est lié à la prise de conscience de la mort, je crois, oui. Et c'est amusant de penser que la mort leur est si pénible, si dure, que dans aucune religion du monde, aucune société du monde, la mort n'est la fin de la vie. Vous savez bien que on pense toujours aux gens qui ont disparu, on espère qu'ils sont quelque part dans un ciel quelconque.
Et qu'on les reverra d'une manière ou d'une autre.
Oui, c'est ça. C'est difficile de penser qu'on ne les reverra pas. Et en l'occurrence, petit à petit, on a essayé de les accompagner dans la mort. Et l'enterrement, l'inhumation, l'installation d'un mort dans une fosse, accompagné souvent de jolis objets, accompagné quelquefois de morceaux de viande pour qu'il puisse se nourrir, ou d'herbes pour qu'il puisse se nourrir, de végétaux. C'est pour qu'il puisse avoir un joli voyage de la terre au ciel, puisque c'est en général dans le ciel qu'on situe les dieux, les paradis, le panthéon. Et pour lui faciliter le voyage, on lui donne tous les éléments pour qu'il fasse le voyage. Alors, les plus anciennes sépultures ont autour de plus de 100 000 ans. On ne peut pas dire que les hommes enterraient leurs morts, mais au début, ils enterraient certains de leurs morts.
Et selon quels critères,
il y avait une sélection. Eh bien, on a cru, avec les idées d'aujourd'hui, qu'ils enterraient les plus importants d'entre eux. Et en fait, ils enterraient sans doute les plus importants d'entre eux, mais ils enterraient aussi les gens handicapés.
Ah, tiens.
Les gens blessés, les gens malades. Mais en général, ces gens qui avaient souffert de quelque chose bénéficiaient d'un enterrement particulièrement soigné. Ça nous a surpris de trouver, d'une part, des gens qui n'étaient pas enterrés, d'autre part, des gens qui étaient mangés, qui étaient consommés parfois. Et d'autre part, d'autres qui étaient véritablement enterrés avec tous les honneurs et les accompagnements possibles. Et encore une fois, il y avait des hommes beaucoup, des femmes un peu, des enfants un peu. Et puis aussi, ces gens dont je vous parlais, c'est-à-dire les malades, les handicapés, les blessés, les accidentés.
Yves Coppens, dont vous trouverez la liste des ouvrages sur le site des Petits Bateaux. À propos de la mort, si vous l'avez raté, réécoutez Nico Sayagas chez Thomas Soto, tout à l'heure sur France Inter, à 17h. Vous l'avez peut-être déjà entendu au Petit Bateau, Béatrice Roussa, ophtalmologiste chirurgienne qui opérait à l'hôpital des 15-20.
Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 9 ans. Pourquoi à la naissance, les yeux, ils sont bleus, puis après, ils changent après? Merci, au revoir.
Alors Camille, cette question, donc, c'est une remarque qui est que partiellement vraie, parce que la couleur de l'iris est en relation avec la quantité de mélanine que contient cet iris, c'est-à-dire de pigments. Alors, chez certains nouveau-nés, donc, les cellules qui sécrètent la mélanine ne sont pas encore bien développées, et donc l'iris paraît grisâtre, sans couleur bien définie. Et puis, au bout de quelques semaines, la sécrétion de mélanine s'organise et la couleur, donc définitive, est atteinte. Donc, il est très possible que l'enfant ait très rapidement donc sa couleur définitive. Mais chez d'autres enfants, les yeux sont peu pigmentés, on dit hypopigmentés, et finissent ensuite par devenir marron. Donc ça peut se voir, c'est tout à fait exact. Et puis, il y a des enfants qui sont albinos, qui n'ont pratiquement pas de pigments sur la peau ni dans les yeux et qui vont garder constamment une peau très très claire, même des fois blanche, des cheveux blancs et des iris qui sont diaphanes, qui laissent passer totalement la lumière. Ça va d'ailleurs beaucoup les gêner parce que ça leur donnera un éblouissement permanent dont il faudra protéger pour que les yeux ne s'abîment pas. Alors ces petits-enfants albinos, donc, eh bien, n'auront pas de modification de leur couleur d'yeux parce qu'ils n'ont pas le pigment nécessaire donc au brunissement ou du moins au fait que l'iris devient foncé. Mais inversement, quand on avance en âge, chez certaines personnes, donc il y a un éclaircissement des yeux qui se fait par une déperdition de pigments.
Ah oui. Hein,
donc la couleur des yeux peut changer donc au cours de la vie, dans un sens ou dans l'autre.
C'était les Australiens Parcells sur France Inter où vous écoutez les petits bateaux.
Bonjour les petits bateaux. Est-ce que vous pourriez me dire comment font les grutiers quand il y a du vent? Parce que ça ne doit pas être facile de manier la grue ou même de monter dedans quand il y a des grandes rafales. Voilà, je me suis toujours posé la question. Merci de votre réponse. Au revoir.
Bonsoir et merci pour cette question. Éric Etival, vous êtes grutier, vous êtes formateur au centre de formation Émile Picot de Malemort en Provence et vous avez également créé un site pour ceux qui s'intéressent aux grues et aux grutiers qui s'appelle grutier.net. Elle vous demande comment on fait quand il y a du vent.
Alors le vent, c'est le pire ennemi du grutier. Il faut savoir que dans l'utilisation d'une grue, donc on est soumis quand même à une réglementation. Donc on ne doit pas utiliser une grue au-delà de 72 km/h de vent.
C'est déjà beaucoup.
C'est beaucoup. Beaucoup pour une grue. Donc au-delà, les constructeurs disent qu'ils ne garantissent plus, disons, la stabilité d'une grue en service. Donc à partir de cette vitesse de vent, donc le grutier doit déposer les charges au sol, les décrocher, et ensuite mettre ce qu'on appelle la grue en girouette. C'est-à-dire qu'on va libérer les freins de la grue de telle sorte qu'elle puisse se mettre toujours dans le sens du vent. Qu'elle n'ait jamais le vent de travers.
Le moins possible de prise au vent.
Voilà, c'est pour ça que vous voyez, quand le chantier est arrêté, les grues sont toutes orientées dans le sens du vent.
Et sinon, quel effet ça fait? Est-ce que ça balance là-haut?
Alors oui, c'est une contrainte supplémentaire pour le travail du groutier. En plus, bon, il y a quand même la responsabilité de déplacer des charges lourdes sur le chantier. Le vent a un effet sur la grue qui a tendance à repousser la flèche dans l'autre sens. Donc il faut que le grutier lutte sans arrêt contre les éléments. Alors, il y a des grues qui se conduisent plus facilement que d'autres, qui ont des moteurs assez puissants et qui peuvent maintenir le vent plus que d'autres. Il y a la grue plus la charge. Il y a des charges qui ont une surface vent assez importante. Et là aussi, donc, il y a des réglementations assez strictes là-dessus. Donc on utilise une grue en service jusqu'à 72, mais à condition que la surface de la charge ne dépasse pas 1 mètre carré par tonne. Au-delà de 1 mètre carré par tonne, on doit se référer à un tableau de vitesse de vent qui nous dit avec quelle vitesse de vent on peut travailler en fonction de la surface et du poids de cette charge.
Qu'est-ce que vous montez comme genre de charge ?
Alors, c'est la plupart du temps sur les chantiers de construction, ce sont des panneaux de coffrage métalliques, donc ils font environ une tonne chacun, mais qui ont des surfaces de 6 mètres carrés.
Alors ça, vous dites chantier de construction, ce qui veut dire qu'il y a des chantiers qui sont d'autres choses ?
Il y a le chantier dans le bâtiment, il y a le chantier dans les travaux publics.
Et travaux publics, ce sont d'autres genres de charges alors ?
Oui, travaux publics, bon, il y a aussi des coffrages, mais c'est surtout des mises en place de pièces préfabriquées, donc de la construction de ponts, de tunnels, que de la construction d'un bâtiment, bon, ce sont des murs, des planchers, des poutres, des poteaux.
C'est pas le même chantier, c'est pas le même travail.
C'est pas le même rythme, on dirait. Le bâtiment, ça demande un rythme assez soutenu quand même. Dans le travaux publics aussi, il y a quand même des impératifs de temps. Mais bon, il y a moins de monde aussi qui travaille en bas sur le chantier.
Pour la sécurité du grutier, Éric Étival, la grue, elle est faite dans une matière souple qui plie éventuellement. Je pense aux chênes et aux roseaux. Pour résister au vent, plus on plie, plus c'est sécure, non ?
Oui, tout à fait. Une grue, c'est très très souple, malgré qu'elle soit conçue en pièces métalliques, en acier. Quand on la regarde travailler, en fait, c'est très souple. C'est, effectivement, on peut le comparer à un roseau. Si elle était rigide comme le chêne, elle casserait.
Éric Étival, merci. Faudrait me payer, moi, pour monter là-haut. Quand j'entends parler de grue, je pense à la ville et je pense à Paris. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas par mépris, mais par ignorance que je ne parle pas des autres villes. Quand je suis en région, j'écoute. Quand je suis à Paris, je cause. Ce soir, je vais vous parler d'Éoline, une petite chienne dessinée par Teresa Martinez et racontée par Stéphane Desberg pour les éditions Grand Angle. Éoline naît et grandit à la campagne. C'est la fille d'un chien de garde exceptionnel qui lui a enseigné que le chien est l'ami de l'homme. Éoline, elle, voudrait être l'amie de tout le monde, y compris de ceux qu'elle doit poursuivre, les renards, les rats, les autres chiens. Elle n'est pas douée, à vrai dire, pour être chien de garde. De toute façon, elle veut peindre et tenter sa chance à Paris. Elle a beau être douée, c'est difficile. Dans cette bande dessinée, les vues de Paris sont merveilleuses, de charme, de mystère, de beauté, de bleuté, de gris, de pluie, d'angoisse, mais aussi de fêtes, de lumière, de rencontres. L'histoire nous tient en haleine et nous emmène dans une belle aventure, avec des méchants et des méchants qui deviennent gentils et puis d'autres qui, hélas, le restent. Il y a aussi des animaux et des humains qui communiquent plutôt bien, comme quoi il n'y a pas que les écrans. Un bon livre, c'est très fort. Celui-ci s'appelle Éoline et c'est en bande dessinée, édité chez Grand Angle. Podcastez mes amis ces petits bateaux ou réécoutez-les tout simplement par franceinter.fr. Marjorie de Voucou, Adèle Caglar, Jean-Baptiste Audibert, Stéphane Combe, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30. À suivre Le Masque et la Plume avec Jérôme Garcin, un Masque et la Plume consacré ce soir au livre.